Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Bourse, on refait la séance.
Invité 5 étoiles ce soir, Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion. Rebonjour, vous étiez avec nous en début d'émission. Jean-Louis Delloro, BFM Bourse, membre de
Bonsoir
la famille.
Stéphane.
Salut Jean-Louis. Et Andrea Tueni, bien sûr, sales trader chez Saxo Bank. Côté valeur, on va commencer par le grand retour d'Orpea sous son nouveau nom, ça s'appelle Emeis, 2 ans après le scandale qui avait vraiment terrassé l'entreprise. C'est le premier jour de cotation, c'était le premier jour aujourd'hui, avec les actions rassemblées, c'est-à-dire 1000 anciennes actions qui deviennent une action. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le titre termine en nette progression, pratiquement 5%, mais est-ce que c'est le moment de revenir sur cette valeur? Qui veut commencer, Thierry?
Pour nous, ce n'est pas encore tout à fait le moment de revenir. Alors, c'est vrai que c'est une opération technique, hein. C'est un regroupement d'une action pour 1000 anciennes. Il le fallait puisque ça cotait des dixièmes de centimes, donc ce n'était pas possible de rester sur des niveaux comme ça. La recapitalisation est terminée. Le titre fait aussi son retour aujourd'hui sur le SRD, donc on peut de nouveau faire des achats ou des ventes à découvert, donc ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Mais voilà, pour nous, c'est encore un peu tôt. Il y a encore une année ou deux de pertes à venir. Il y a encore une dette qui est colossale malgré la recapitalisation. Et puis, des sessions d'actifs à venir, quels actifs vont être cédés, tout ça, c'est pas encore bien clair. Et l'exploitation, il va falloir que ça reparte, et tout ça, ça va prendre un peu de temps. Même si les premiers indicateurs sur l'exploitation montrent que, a priori, voilà, les clients sont au rendez-vous, il y a encore beaucoup de chemin à faire et on reste à l'écart pour le moment sur le titre.
13,32€, hein, on termine finalement en hausse de 3,3%. C'est un petit peu essoufflé en fin de séance. Jean-Louis?
Moi, je suis assez d'accord. Hein. Alors, c'est sûr qu'on est au début d'une nouvelle histoire. On a changé de nom, hein, Orpea, maintenant c'est Emeis. On s'est restructuré autour d'actionnaires qui sont quand même très costauds. Faut le rappeler, hein, c'est la Caisse des dépôts, donc ça veut dire l'État, hein, quelque part. CNP Assurance ou encore MACSF Épargne Retraite. Donc c'est quand même du costaud. On a réinjecté des fonds, on a effacé une partie de la dette. On a remis une action un peu en ordre de marche quand même, parce que c'était pas très sérieux d'avoir une action qui cotait comme on vient de le dire, des dixièmes de centimes. Mais fondamentalement, moi, j'ai quand même envie d'attendre de voir ce que ça va donner, parce que là, on va rentrer dans l'opérationnel. Effectivement, il va peut-être y avoir des cessions d'actifs pour effacer une partie encore de la dette. Et puis, on va voir comment ils vont aussi pouvoir améliorer leur image, et puis le traitement des résidents en maison de retraite, s'ils arrivent à stopper toute maltraitance, tout en arrivant à dégager une marge dans les prochains mois. Donc, c'est pas forcément évident. On va dire, c'est quand même une activité compliquée, complexe, et qui, en plus, va être particulièrement surveillé après les scandales qu'il y a eu par l'État. Donc à voir dans les prochains mois. Moi, j'attendrai encore plusieurs trimestres avant de regarder le dossier d'un peu plus près.
On se posait la question tout à l'heure dans la famille, mais changer de nom pour faire oublier des difficultés ou des scandales, ça marche pas à tous les coups, hein, Thierry Gauthier. On a bien vu.
On a déjà eu Corian qui a changé de nom pour Clarian. Oui, pour le moment, ça n'a pas eu les effets escomptés. On a eu Forvia. Bon, pour le moment, c'est pas non plus. Alors, il n'y a pas eu de scandale, hein, sur Forestia, mais.
Non, mais.
Mais voilà, on a eu.
Là, c'est peut-être une autre catégorie. C'est lorsqu'on change de nom pour refléter une nouvelle stratégie. On a vu Total, qui est devenu Total Energy, pour bien expliquer que les énergies, c'était pas uniquement le fossile.
Voilà, ça tout dépend de la raison du changement de nom. On a eu Eurotunnel, qui était devenu Getlink, qui est plutôt un bel exemple pour le coup. Et puis Total en Total Énergie que vous avez cité également. Donc non, ça dépend surtout de la raison pour laquelle vous le faites. Ouais.
On va s'intéresser au secteur du luxe qui a un petit peu souffert aujourd'hui. Kering, 3e séance de baisse, 3,6% de baisse à la clôture. Et LVMH qui perd 2,3%. C'est quoi le problème? Parce que sur LVMH, on a une info, c'est le directeur général délégué qui va aller en Italie diriger une filiale, une business unit du groupe. C'était le numéro 2. Alors évidemment, ça peut déstabiliser, ça peut inquiéter le marché. C'est ça qui a fait baisser LVMH aujourd'hui, ou est-ce que d'une manière plus générale, vous avez le sentiment que sur le luxe, on est en train de prendre ses bénéfices?
Non, moi je pense que c'est surtout, il y a eu une note d'analyste de Royal Bank of Canada qui n'était pas très très positif sur l'ensemble des acteurs du luxe, et notamment LVMH. Ils estiment que la croissance sur les trois premiers mois de l'année va pas être très bonne. Et ils s'inquiètent notamment de la Chine. Donc en fait, tout le monde descend un petit peu, hein, que ce soit Kering, LVMH ou même Hermès. Ça, c'est une note d'analyste. Moi, j'ai envie de dire, LVMH, globalement, ces dernières années, ils nous ont quand même appris qu'ils étaient capables de surprendre positivement le marché, de dépasser les attentes quasiment à chaque trimestre. Alors oui, il y a la problématique de la Chine, le marché qui ralentit en Chine. Et puis, on a peu d'informations, en vrai, sur l'état réel de l'économie chinoise. Donc, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on a l'impression que de toute façon les acteurs du luxe ont bien conscience de ça et qu'ils essayent de trouver des relais de croissance à droite à gauche et qu'ils commencent peut-être à y arriver. Et puis pour LVMH, moi je me dis pourquoi pas un effet JO dans les prochains mois à Paris, s'il y a énormément de touristes qui arrivent, peut-être qu'ils vont avoir un petit bond de vente à ce moment-là. À voir. Donc moi je serais plutôt positif pour LVMH. Là c'est une mauvaise journée, mais bon, ça arrive en bourse.
Thierry, vous aimez bien LVMH, vous êtes plus prudent sur Kering.
Oui, on est plutôt à l'achat sur LVMH, pour les raisons que vient d'expliquer Jean-Louis. C'est un titre qui se paye 24 ou 25 fois les profits dans le contexte actuel, avec la croissance qu'elle connaît et les bonnes surprises qu'elle provoque à chaque fois au moment des publications. C'est pas si cher payé. Donc c'est un titre qu'on aime bien et qu'on a en portefeuille et sur lequel, dès qu'on revient en dessous de 800 €, on est plutôt même à se repositionner à l'achat. Et voilà, l'annonce de Tony Belloni qui quitte la direction générale du groupe, pour nous c'est pas un événement majeur, c'est quelque chose qui a été négocié dans le top management. Et il va rester proche de Bernard Arnault pour des missions stratégiques, vous l'avez dit, président aussi de LVMH Italie. Ouais. Donc c'est pas un départ pour des raisons de problématiques vraiment sur le groupe. Donc on n'est pas inquiet pour ça. Et voilà, comme l'a dit Jean-Louis, il y a l'effet Kering il y a deux jours avec ses résultats et notamment les moins 10 ou moins 20% attendus sur le chiffre d'affaires de Gucci au T1. Ça fait du mal avec l'Asie qui peine. Forcément, on se dit que peut-être que LVMH, il peut y avoir aussi un mouvement qui s'enclenche de ce côté-là. Donc voilà, tout le secteur recule un petit peu, mais il n'y a rien de dramatique aujourd'hui.
Et puis j'ai envie de dire que Kering, c'est un peu l'inverse de LVMH. Ils ont plutôt eu tendance à nous décevoir quasiment à chaque fois. Et Gucci, surtout, ça ne va pas, ils n'arrivent pas à relancer la marque.
Hein. Et ça représente la moitié du chiffre d'affaires de Kering. Qu'est-ce qu'on peut en dire techniquement, Andrea, de LVMH? Petite baisse aujourd'hui, on est encore en hausse de 15% pratiquement depuis le début de l'année. Et on a toujours un plus haut historique à 904,60 €. Là, on est à 829.
C'est vrai que depuis le début de l'année, le titre est toujours en forte hausse, mais on observe quand même quelques petits signaux techniques qui sont pas très encourageants, des signes de dessoufflement. On a aussi des pressions acheteuses qui sont un petit peu moins importantes. On voit un indicateur comme le RSI qui est en baisse typiquement sur LVMH. Donc c'est vrai qu'on a quand même ces petits premiers signaux, on va dire, voilà, d'essoufflement, on peut avoir une petite consolidation sur le titre. Nous, ce qu'on observe comme niveau, c'est essentiellement une cassure. Si on passe sous les 822 €, là, on a un risque sur le titre de revenir sur des niveaux tels que 785 ou 762 €. Et pour redonner en fait une dynamique acheteuse très forte, pour redonner de la force au mouvement acheteur qu'on a pu voir sur LVMH, notamment après les derniers résultats, là il faudrait repasser techniquement toujours au-dessus des 886 € pour redonner, on va dire, cette dynamique acheteuse. Mais c'est vrai que pour le moment, on a des petits signes un petit peu de friction technique et peut-être d'essoufflement.
Et donc ce soir, une baisse de 2,1% sur la valeur, 829,70 € sur l'ensemble de la semaine. Le titre LVMH perd 3,8%. Une valeur qui s'est distinguée cette semaine en hausse du CAC, en haut du CAC, une hausse pour Téléperformance. 3,1% de hausse ce soir. C'était déjà l'une des meilleures performances hier et avant-hier sur le CAC. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Jean-Louis, sur Téléperformance?
Excellente question. J'ai pas forcément la réponse. Ce qui est sûr, c'est que ça rebondit depuis 3 jours. On est autour de +8, +9% sur les 3 dernières séances. Mais il n'y a pas tellement d'actualité sur le groupe. Donc on peut se dire qu'il y a des gens qui se reprennent position sur Téléperformance en se disant que la valeur a été massacrée massacré. Il faut dire que quand on regarde depuis le pic historique, hein, j'ai regardé en janvier 2022, le cours de l'action a été divisé par 4, même par plus de 4. Certains investisseurs peuvent se dire que ça y est, c'est bon, le fond de la piscine a été touché. Et surtout, quand on regarde, le ratio cours sur bénéfice, qu'on regarde quand même beaucoup en bourse, on est à un peu moins de 9. Donc ce qui est pas cher payé pour une valeur tech, surtout quand on regarde les valeurs américaines, où souvent on est à plus de 30, 40, 50 ou plus. Mais le problème, hein, c'est que, bon, en tout cas, je suis toujours pas rassuré sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le business model de Téléperformance. Vous savez, hein, faut le rappeler, c'est des centres d'appels et de la relation client, etc. À partir du moment où maintenant on sait faire des voix artificielles qui ressemblent à des humains, on sait faire des réponses automatisées très pointues en fonction des, et en plus on sait entraîner des IA sur un corpus spécifique, c'est-à-dire bah, par exemple sur des conditions générales de vente,
choix multiple, faites le 1, le 2.
On n'est plus sur le chatbot d'il y a 10 ans où bon, c'était un peu ridicule. Là on est quand même sur quelque chose de très costaud. Et puis il y a eu le précédent Klarna, vous savez, la fintech suédoise spécialiste du paiement fractionné. Et donc ils ont développé un outil d'intelligence artificielle et qui a permis de répondre. Eux, ils estiment que ça a fait le travail l'équivalent de 700 personnes à temps plein. Attendez, accrochez-vous bien, hein, c'est le même taux de satisfaction et même les réponses sont plus précises. Donc forcément, ça, Téléperformance était pris un gadin derrière. Alors eux, Téléperformance, ils essayent de rassurer, ils disent non, ça n'a rien à voir, ça c'est. De toute façon, on développe nous aussi plein d'outils d'IA et tout. Sauf que quand on regarde le revenu sur le dernier trimestre, bah ça coince, ça freine, alors que c'était une valeur qui était quand même en très forte progression ces dernières années. Moi, j'attends de voir où ils en sont là-dessus. Ça augmente sur les trois dernières séances. Moi, j'attendrai de voir sur les prochains trimestres s'il se passe quelque chose de ce côté-là sur l'IA.
Thierry Gauthier, les inquiétudes, Jean-Louis vient de le rappeler, c'est l'intelligence artificielle et la menace sur le business model. Mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu surréagi? Parce que cette question de l'intelligence artificielle qui va disrupter, je suis désolé pour le mot, pas mal de métiers, on pourrait se poser la question pour d'autres entreprises qui n'ont pas été sanctionnées de la même façon. Est-ce que la sanction n'a pas été un peu sévère quand même?
Alors c'est vrai que Téléperformance a été vraiment au cœur de cette problématique-là. Après, il faut se souvenir que l'évolution des technologies, c'est pas toujours les ennemis de ces sociétés-là. Je me souviens d'il y a 10 ou 15 ans, Publicis qui n'avait d'autre solution que de mourir parce que la publicité basculait de la télé à l'internet, qu'il y avait la disparition des cookies et qu'on pouvait plus tracer les clients sur les réseaux. Tout ça, en fait, aujourd'hui, Publicis en a fait presque une force et a retourné tous ces éléments en avantage ou en outils pour développer encore. On souhaite la même chose à Téléperformance. Alors évidemment, il y a des problématiques stratégiques à adresser qu'il faudra bien adresser. Mais pourquoi pas l'IA au service de Téléperformance aussi dans certaines mesures. Alors c'est vrai que l'IA, ça va aussi avoir un effet très déflationniste et de baisse des prix donc sur tous ces services-là. Comment est-ce qu'ils vont savoir gérer ça? Il y a la fusion avec Majorel en même temps, mais c'est vrai que alors vous dites cette semaine plus 8%, est-ce que c'est un retour en grâce? Non, et il faut voir que depuis le début de l'année elle est encore à moins 30. Ouais, elle est divisée par 4 depuis ses plus hauts, hein, comme Jean-Louis l'a expliqué. Donc
qu'elle est pas chère, hein, elle est très très basse, hein, elle est valorisée très très basse, mais il y a peut-être une raison.
On est plus sur un rebond technique, j'ai envie de dire, cette semaine, mais oui, elle est valorisée 7 ou 8 fois les profits, elle donne 4 ou 5% de rendement désormais. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui est passée d'un statut de valeur croissance il y a 2-3 ans à un statut de valeur value. Donc aujourd'hui, il y a peut-être d'autres investisseurs qui s'intéressent au dossier. Et sur ces niveaux-là, on a envie d'y croire. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir refait cette séance de vendredi. Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion, et Jean-Louis Delloro, BFM Bourse, membre de la famille, et Andrea Tueni qui était avec nous tout à l'heure, Saxo Bank.